pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, quel est le fruit le plus consommé au monde? Eh bien, c'est la banane. C'est le fruit le plus sexy de nos marchés. Et pourtant, c'est un mutant stérile. Découvert dans une forêt tropicale il y a très longtemps, il s'est propagé de manière végétative, c'est-à-dire en replantant les rejets qui émergent de la base de sa tige. Résultat, presque chaque variété de cette plante n'a qu'un seul ancêtre commun, déniché un peu par hasard avant d'être exploité par les premiers cultivateurs du sud-est asiatique. Cette singularité est devenue une menace, car si nous ne changeons pas nos manières de la cultiver, la banane pourrait bientôt disparaître.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Alistair Smith.
Oui, bonjour.
Vous êtes le fondateur de Banana Link et l'auteur de la saga de la banane aux éditions Charles Léopold Meyer. Alors nous sommes dans un agréable petit jardin, à la terrasse d'un café à Lyon, dans le sud de la France, parce que c'était l'endroit le plus simple pour nous retrouver. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Banana Link ?
Oui, c'est une petite association de loi britannique qui existe depuis 22 ans et qui a pour mission de transformer tous les aspects sociaux, environnementaux, économiques de la filière banane comme exemple emblématique de l'économie mondiale. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires sur le continent latino-américain et puis en Afrique, aux Caraïbes, aux Philippines, pour essayer surtout des petits producteurs et des travailleurs, donc des employés, des plantations, pour essayer de changer la donne sociale et environnementale dans ces filières internationales.
Oui, et alors il y a une grosse marge de progrès parce qu'on va le rappeler, la banane est le fruit le plus consommé au monde.
Effectivement, avec 9 milliards de dollars par an, c'est le fruit le plus commercialisé et ça depuis longtemps.
Comment ça s'explique ?
Ben, c'est emblématique de la mondialisation, mais disons, on peut tracer l'origine génétique de la banane, c'est Asie du Sud-Est, probablement l'Indonésie. Et donc sur des siècles et des siècles, c'est des commerçants arabes et puis des Hollandais, des Espagnols qui ont ramené des plantes bananes sur d'autres continents, initialement en Afrique, aux Canaries, depuis les Canaries, aux Amériques. Et puis depuis la deuxième moitié du 19e siècle, c'est devenu le premier produit agricole industriel, on va dire, standardisé, qui a été dans les mains des entreprises états-uniennes à l'époque et pendant des décennies, des grosses entreprises très réputées, on peut dire malfamées même, dans la littérature latino-américaine, par exemple, parce qu'ils ont dominé cette production et ce commerce pendant des décennies et des décennies. Depuis Amérique latine et les Caraïbes, qui reste aujourd'hui le lieu de production de 80% des bananes commercialisées dans le commerce international. Là, on ne parle pas des bananes qui ne sortent pas de leurs frontières, on va dire, nationales, parce que plus de 80% de la production mondiale de la banane, ça se passe à l'intérieur des pays comme l'Inde, comme la Chine, les Philippines, l'Indonésie, l'Ouganda, etc. 70 pays du monde, la banane et les bananes plantains, c'est quand même le produit qui assure la sécurité alimentaire de base. Mais là, on parle de la banane commercialisée au niveau international, qui est bien mondialisée. On peut dire que tout récemment, depuis quelques années, il y a une dernière phase, on va dire, de mondialisation, dans le sens que ces entreprises états-uniennes qui ont dominé le commerce international depuis des décennies ont toutes été rachetées. Et aujourd'hui, les quatre premières multinationales productrices de bananes sont Chiquita, la fameuse United Fruit Company, qui a quasiment eu le monopole il y a 100 ans. Mais eux, aujourd'hui, sont dans les mains brésiliennes. La plus grosse entreprise européenne vient d'être rachetée il y a 2 ans par un gros groupe japonais. Et la seule multinationale américaine états-unienne qui restait, c'est-à-dire Dole, a été rachetée il y a quelques mois par une entreprise européenne. Donc voilà.
On voit bien à travers la banane qu'on est au cœur de la mondialisation.
Je crois que oui, et dans le sens d'un produit industriel standardisé, mais dans le sens technologique aussi, mais disons que tout ce qui est transport maritime réfrigéré, ça a été inventé par la même United Fruit Company dans les années 20. Ils ont inventé ça et ça a permis le transport adéquat de bananes à une température contrôlée jusque dans les marchés.
Et alors si on essaye de faire une photographie de la production et de la consommation au niveau mondial ?
Bon, on va commencer par le pays qui a un tiers des exportations, un petit peu plus aujourd'hui, c'est l'Équateur. Donc Amérique du Sud et Amérique centrale et représentent quand même quasiment 80% du commerce international, de la production vers ce commerce international. Et puis donc c'est l'Équateur, la Colombie, le Costa Rica et aujourd'hui un nouveau pays qui émerge comme très gros exportateur, c'est le Guatemala, qui est le numéro un aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a eu une expansion vertigineuse depuis quelques années. Et puis des pays africains, la Côte d'Ivoire en expansion, mais relativement, l'Afrique ne représente qu'à peu près 6% de ce commerce international, même si la Côte d'Ivoire, il y a une petite expansion, on va dire, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana. Et puis, le gros acteur des Caraïbes aujourd'hui, c'est la République dominicaine, qui est quand même aujourd'hui la capitale de la banane bio.
Et qu'est-ce qui explique que ce commerce de la banane soit si peu développé en Afrique, alors que pourtant, c'est une terre propice à la production de ce fruit ?
Mais en Afrique, la banane et la banane plantain, c'est surtout un produit de consommation locale. Dans les pays latino-américains où il y avait beaucoup de plaines pluvieuses, on va dire, qui sont bien adaptées jusqu'à aujourd'hui à la production. La banane en Afrique, il y avait d'autres produits comme le cacao qui a pris le devant, quoi.
Alors vous parliez de la République dominicaine comme étant le pays capital de la banane bio, mais comme vous le précisez dans votre livre, après plus de 20 ans d'efforts, la banane est devenue le produit phare du commerce équitable labellisé dans certains pays du Nord, mais les principes du commerce équitable et de l'agriculture biologique sont loin quand même de s'imposer au niveau mondial.
Ils sont loin de s'imposer, mais c'est quand même la filière ou l'ensemble de filières où il y a plus de commerce équitable et bio que tout les autres produits agricoles. 8-9% de la production mondiale pour le commerce international est bio, labellisé bio, et quasiment 4% est labellisé équitable. Donc, mais si on arrive au marché, le marché suisse ou britannique par exemple, c'est vraiment sorti du fameux niche de marché, c'est pas quelques pourcents, c'est là en Suisse c'est 50% du marché suisse qui est équitable et c'est 30% du marché britannique. Il y a d'autres problèmes par rapport au prix, mais bon, labellisé équitable, donc les consommateurs peuvent faire bouger la chose, ça c'est clair. Et dans le cas de la Suisse et de la Grande-Bretagne, c'est l'opinion publique qui a fait bouger ce marché. Parce qu'ils avaient des informations sur toutes les conséquences sociales et environnementales de la banane conventionnelle.
Ce qui fait que les gens réfléchissent avant d'acheter finalement et portent leur choix vers une banane plus équitable ou produite de manière plus biologique. Alors la banane la plus écologique au monde serait française. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Oui et non. Ça prête à la confusion parce que la banane martiniquaise guadeloupéenne n'est pas bio. Il y a tout un débat sur les normes bio autour de ça, ça on le sait, on l'a entendu. J'entre pas dans ce débat, mais si on par là on veut dire que c'est l'industrie, disons la première industrie de la banane commerciale qui a fait des efforts pour aller vers d'autres systèmes de production, moins dépendants d'intrants chimiques, on peut dire oui.
Alors c'est en tout cas ce que défend l'UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe, mise à mal par le scandale du chlordécone, on en reparlera dans un instant. Dans les années 90, les producteurs de bananes des Antilles se rachètent aujourd'hui une image plus propre. Depuis 2008, ils sont engagés dans un plan banane durable. Ils ont également lancé, il y a 3 ans, un label banane française. Autant d'engagements qui redorent leur blason sur les étals face à la banane africaine et sud-américaine, ses grands concurrents. Alice Milo s'est rendue en Guadeloupe à la rencontre des producteurs de l'UGPBAN. Première visite chez Damien Frère, dont la petite exploitation se situe dans les hauteurs de Capesterre-Belleau, au bout d'un chemin de terre très accidenté.
M'arrivent les voisins là, m'arrivent les voisins là, m'arrivent.
Caillou, pourquoi ça on va dormir? Regarde ça on y a ces machins là, ça vient d'où là? Mettez banane, c'est ça là.
Si jamais vous sentez vous glisser, n'hésitez pas à me tenir. Voilà.
Ça glisse?
Parfois un petit peu. C'est à cause de l'humidité en fait. Hein. Parce que bon, ici c'est des terres argileuses. Malheureusement pour nous, c'est ça. Les terres sont pentues, c'est pas mécanisable. On doit tout faire à la main. Ce qui fait que finalement, c'est un travail quand même assez coriace. Quoi. Donc c'est comme si on était des sportifs de haut niveau. Quoi.
Où est-ce qu'on est précisément?
Alors, vous êtes dans la commune de Capesterre, Belle-Eau, particulièrement dans une zone qui s'appelle Sainte-Marie, et nous sommes dans les hauteurs.
On est au pied de la Soufrière, hein, c'est ça? La Soufrière est
derrière. Ah, la Soufrière n'est pas très loin de nous, effectivement. Effectivement, vous découvrez la montagne, vous découvrez la mer, c'est quand même pas mal. On voit la mer à perte de vue, et s'il n'y avait pas trop de nuages, vous voyez, vous découvrez quand même Marie-Galante là-bas. Vous voyez Marie-Galante?
Ah, c'est les terres en face, c'est Marie-Galante.
Ah, en face, là, c'est dans la mer, là, c'est Marie-Galante qui est installée là, comme un bateau. En fait, c'est vrai que c'est difficile en termes de configuration de sol. Mais quand nous sommes ici, nous sommes bien. Ah, il y a des chaussures.
C'est pas grave.
Bon, vous allez voir ce que je vous disais par rapport à la configuration du terrain.
On rentre dans une parcelle,
justement. Ben, cette parcelle-là a 4 ans à peu près. 4 ans. Donc, effectivement, c'est une parcelle qui a subi le cyclone, qu'on a perdu à 100%. Et là, c'est les régimes que vous voyez pendant là, ce sont des régimes d'après-cyclone. Donc on a fait énormément d'efforts pour pouvoir remettre tout ça en production.
Donc ce cyclone dont vous parlez, c'est le cyclone Maria qui a eu lieu le 17 septembre dernier. Est-ce que vous vous souvenez, Damien, de ce jour-là?
Vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. Hein. On a été installé en banane en 87-88. Donc quand je vous dis 87-88, vous pensez 89 et vous pensez Hugo. Le cyclone Hugo est passé, il était très violent en 89. Hugo a dévasté la Guadeloupe. Moi, tout juste installé, on avait plein de bananes sous pied, on allait récolter, on était contents, on se faisait déjà une belle prévision. Et puis, je suis venu, je faisais le tour des parcelles, je voyais tout était à plat.
Après Hugo.
Alors moi, j'ai crié, mais un cri est sorti de ma gorge, mais un cri énorme. Ah ben, Maria, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous étions complètement à plat ici. On est arrivé avec 100% de la production à terre. Il fallait tout reprendre par la suite. C'est toujours une angoisse extraordinaire. C'est de savoir comment on va faire pour repartir. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos salariés, etc. etc. Donc, on recommence. Et puis voilà, nous en sommes aujourd'hui à un niveau où nous commençons à récolter les quelques régimes que nous avons pour le moment.
Ces bananiers, ils sont très jeunes alors, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 9 mois.
Ah ben oui, effectivement, les bananiers que vous voyez là, donc septembre, voilà, ils ont effectivement moins de 9 mois.
Ça pousse très vite.
Ah non, mais ça pousse très vite parce que en fait, ici c'est quand même c'est tropical, donc on a de l'humidité, on a du soleil, donc effectivement la végétation repart très 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 vite. C'est quelque part la chance de notre malheur, mais vous savez, avant en Guadeloupe, il y avait café, il y avait cacao. Hein? Après, il y a eu de la banane. Vous savez, par exemple, qu'il y a sur la côte Soulama des gens qui avaient du café, ils ont perdu les pieds de café. Et c'est un pied de café, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Un bananier, c'est 7 mois, 8 mois après, on peut avoir un régime après un cyclone. Il faut bien savoir une chose, c'est que hebdomadairement, on faisait autour de 10-12 tonnes de bananes. Aujourd'hui, là, actuellement, on commence le conditionnement, on est à 2-3 tonnes.
Ça n'a rien. Vous avez réduit quasiment par 10, en fait, votre production.
On a diminué considérablement et il faut savoir une chose, c'est que les salariés, les charges sont encore là. Hein. Et nous, s'il faut qu'on mange du pain et de l'eau chez nous en tant que producteur, parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour faire, on va manger pain et eau, hein, vous savez, on va se sacrifier, on va se serrer la ceinture, mais on n'a pas le choix. Hein. C'est pas forcément facile, hein, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des moments où on a des enfants, ils font des études, etc. Parfois, il faut garder les larmes, hein. Il ne faut pas pleurer. Hein.
Ici, ça fait combien d'hectares?
Ici, on a 12 hectares.
12. Donc, oui. Ça fait partie des petites exploitations de l'île?
Ah oui, ce sont des petites exploitations. Hein. Comme vous voyez là, ici, effectivement, on n'utilise plus d'herbicides. Hein. Là, ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus d'herbicides. Vous allez voir des herbes là, ben, c'est parce que tout simplement, on a décidé de faire en sorte que la nature et nous soyons en harmonie. Donc plus d'herbicides, parce qu'on ne fait plus de produits chimiques, on fait plus ce genre de choses-là. Donc on utilise les méthodes d'antan longtemps, hein, vous savez. Hein.
Ici, il y a eu du chlordécone sur ces terres-là, sur les vôtres.
Vous savez, quand mon épouse a repris, c'était pas cette parcelle-là, c'était plus loin. Eh bien, vous savez, ce qui se passait, c'est qu'on nous disait que vous devez utiliser tel produit. Parce que si vous ne le faisiez pas, vous auriez des problèmes de nématodes, de charançons, etc. Et vos bananiers n'allaient pas pousser. Et il y avait un produit qui s'appelait le Kulon qui était subventionné à 75% pour les jeunes agriculteurs. Et nous, je vous dis, nous, les producteurs, nous ne sommes pas chimistes. On n'a pas inventé de produits chimiques. On fait confiance. Et si on vous dit, par exemple, utilisez tel antibiotique pour vous soigner, vous allez l'utiliser. Vous n'allez pas dire que non, je préfère mourir que de l'utiliser. Eh bien, quand on nous a dit d'utiliser tel produit, on l'a utilisé. On a juste respecté un certain nombre de choses, à savoir qu'il fallait mettre une telle dose, on a respecté ça. Mais après, on a su qu'il y avait ce problème-là. Problème des molécules qui restaient dans le sol pendant 100 ans, plus de 100 ans. Vous pensez bien que ce n'est pas l'agriculteur qui a voulu faire ça, faire en sorte d'empoisonner. C'est comme si on empoisonnait son enfant. On n'a pas empoisonné le sol, on n'a pas mis du chlordécone parce qu'on voulait s'empoisonner.
Je suis Philippe Alien, le directeur général du groupement Les Producteurs de Guadeloupe. Alors le chlordécone, c'est un insecticide organochloré qui a été utilisé pour lutter contre les charançons.
Qui sont des petites bêtes en fait qui attaquent les racines.
Des petites bêtes, des insectes qui mangent le bulbe du bananier. Et il se trouve que si le bulbe est attaqué, donc c'est le potentiel productif qui est amoindri. Donc effectivement, ce produit a été utilisé dans les années 70, 80, 90. Le drame de ce produit, c'est que c'est un produit très rémanent dans le sol. Et on en a pour des siècles, peut-être 4 ou 5 siècles.
Il reste.
Il reste. Et il contamine la chaîne alimentaire, et les sols, et l'eau. Il se trouve aussi qu'il y a certains fruits et légumes, notamment des légumes souterrains.
Tout ce qui est tubercule,
tubercules, peuvent être contaminés. Premièrement, on retrouve le chlordécone dans le sang pratiquement de tous les Guadeloupéens, ça c'est clair, hein, il y a eu des études qui l'ont démontré. Deuxièmement, on voit qu'il y a une certaine prévalence du cancer de la prostate. Donc effectivement, du coup, la filière banane a été considérée comme étant par certains responsable de cette pollution. Mais il se trouve que les autorisations d'homologation étaient données par les pouvoirs publics. Enfin, en dehors de la polémique, il fallait quand même avancer. Et c'est là où on s'est dit que on s'est engagé dans ce qu'on a appelé le plan banane durable 1 en 2008. Et l'une des déclinaisons en termes de mesures, c'était sur le volet pesticides, c'est de tout mettre en œuvre pour réduire la consommation de pesticides. On a réduit la quantité de pesticides qu'on utilisait de l'ordre de 65%. Et je pense que ça a été assez facile de convaincre les adhérents que c'était l'une des grandes voies qui nous restait. Et nous avons fait beaucoup d'efforts et les planteurs ont adopté de nouvelles techniques.
Derrière vous, vous allez voir un petit récipient jaune. Ah ben ça, justement, c'est pour nous éviter de faire du chimique. On met ce qu'on appelle des pièges à phéromones qui nous permettent de capter ce qu'on appelle le charançon du bananier. Et si je vous ouvre la petite boîte que vous allez voir là, donc si je vous l'ouvre, vous allez voir, là, ça, c'est le phéromone en question qui attire les charançons et qui viennent tranquillement là-dedans parce qu'ils pensent qu'il y a une femelle, etc. Ils viennent tranquillement là-dedans et puis boum, ils sont pris au piège, je ne peux pas remonter. Et à l'intérieur, là, vous voyez la quantité de charançons que vous avez. Si ces charançons-là, ça n'était pas piégé par le phéromone en question, eh bien, on les retrouvait au pied de nos bananiers.
Bonjour, je m'appelle Guy Adolphe, je suis planteur de bananes, premier vice-président du groupement de producteurs de bananes de la Guadeloupe et aussi administrateur de l'UGP BAN.
On va prendre la voiture ?
Oui, oui.
Ah ! Allez-y.
Ah bon, d'accord. Donc tu pourras me livrer les cartons vides lundi matin ?
Lundi matin.
Ok, je te remercie, Jean-Paul.
Bye.
Donc là, on prend la voiture pour aller sur vos cultures parce qu'en fait, c'est très grand ici.
Oui, c'est relativement grand. L'exploitation, au total, elle fait 90 hectares. Puisque sinon, ça prendrait trop de temps de passer d'une parcelle à l'autre et puis ça nous fatiguerait beaucoup trop. Déjà, il faut absolument pénétrer dans les parcelles.
Fais pas moins, j'avoue un misère. Et puis là, si on y a passé, en Sénèque, il fait un moins grené.
Donc là, on est dans une des parcelles qui a été récupérée après le cyclone Maria. Et c'est une des parcelles dans lesquelles nous avons implanté ce qu'on appelle les plantes de couverture. Elles ne poussent pas naturellement. Et elle est censée empêcher la pousse de la mauvaise herbe, enfin des herbes un peu concurrentes du bananier. Mais bon, on n'a pas encore trouvé la bonne technique. Mais
vous êtes encore en train de chercher, là, en fait.
Encore en train de chercher, mais quand même une utilisation.
Donc en fait, ça forme un tapis vert.
Ça forme un tapis vert. Ça aurait dû normalement empêcher de faire pousser cette plante, là, ce qu'on appelle la liane.
Parce que c'est mauvais.
Ça, c'est mauvais pour le bananier parce que ça grimpe sur le bananier et ça empêche le bananier de bien grandir. Donc, mais bon, ça ne marche pas trop. Et du coup, on ne fait de l'herbicide qu'au pied du bananier. Ce qui veut dire que nous avons réduit l'utilisation des produits de l'herbicide d'à peu près de 70%. Puisque toute cette partie maintenant n'est plus désherbée chimiquement.
Depuis combien de temps ?
On a commencé les plantes de couverture il y a à peu près 5 ans. Et on continue avec le CIRAD à faire d'autres recherches pour trouver des plantes un peu plus efficaces, qui ne soient pas concurrentes du bananier, mais qui couvrent suffisamment le sol pour empêcher les vieilles herbes qui sont concurrentes du bananier de pousser, de façon à ce qu'on n'utilise plus du tout d'herbicide. Puisque vous voyez, le bananier, c'est une plante qui est très fragile. Vous voyez, c'est spongieux. En fait, le bananier, c'est une herbe. Hein. C'est pas un arbre solide. Il est fragile. Nous sommes en climat tropical, donc le développement des insectes se fait facilement aussi. Qu'est-ce que nous avons fait ? Il y a déjà plusieurs années maintenant, avec l'aide du CIRAD, on a mis en place la pratique des rotations culturales ou des jachères. En laissant les jachères, en laissant d'autres cultures, notamment la canne, ou alors des jachères nues, pour pouvoir faire une période d'assainissement. Pendant cette période d'assainissement, comme il n'y avait plus de bananiers, les nématodes qui se trouvaient dans le sol mouraient, et les charançons aussi, ayant moins de matière, pondant beaucoup moins, ont énormément diminué en population. Et avec aussi le reste du CIRAD, nous avons mis en place ce qu'on appelle les vitroplants. Ce sont des plants dont la conception a été faite à Montpellier, toujours au CIRAD, qui sont développés en dehors des zones bananières, là où il n'y a pas de charançons et tout, sous serre et tout. Et donc, on nous livre des plants sains, qui ne sont pas atteints de nématodes. Et en plantant dans une parcelle saine des plants sains, nous pouvons comme ça rester jusqu'à 3 ou 4 ans sans faire de produits phytosanitaires. Et nous avions donc une autre attaque, la cercosporiose, qui attaque la feuille du bananier qu'on traitait auparavant par avion. Et nous avons là aussi arrêté le traitement par avion.
Donc ça, c'est un champignon.
Ça, c'est un champignon. C'est un fongicide là qu'on utilisait. Maintenant, nous avons aussi diminué l'utilisation des produits fongicides en épandage. Et nous sommes passés à une technique mécanique qui consiste à faire les salariés passer dans les parcelles et enlever toutes les parties nécrosées. La prise de conscience qu'on allait de moins en moins utiliser de produits phytosanitaires, qu'il fallait le faire pour nous, agriculteurs, qu'il fallait le faire pour la population. Mais je vous dirais aussi que c'était aussi une manière de survivre. Les produits phytosanitaires coûtent très cher. Je crois que c'est valable aussi pour l'agriculteur métropolitain. Il n'utilise jamais de produits phytosanitaires parce qu'il veut le faire. C'est souvent parce qu'il n'a pas d'autre alternative. Un produit phytosanitaire coûte cher et difficile à manipuler. Il vous faut chasuble, il vous faut un masque, il vous faut des casquettes, il vous faut des gants. Quand vous transpirez dans ce truc, vous vivez l'enfer. Donc, si on s'en sert, et on s'en sert de moins en moins, le peu dont on s'en sert, c'est vraiment parce qu'on y est, je dirais pas contraint et forcé, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé d'alternative. Et on continue à chercher pour faire autre chose. J'ai allégé aussi ma responsabilité à la fois morale et juridique, quelque part.
Vous n'êtes plus un pollueur.
Je ne suis plus un pollueur. Ça pèse quand même, hein, quand vous entendez tous les jours à la radio que vous êtes un pollueur, ça pèse quand même, hein, faut pas croire qu'on s'en fout. Puis vis-à-vis des salariés aussi, ils utilisent beaucoup moins, ils manipulent beaucoup moins, moi-même je manipule beaucoup moins de produits phytosanitaires, mon esprit est plus libre. Tiens, voilà, un salarié. Qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes dans une petite voiture? Tu travailles?
Moi c'est Ricardo.
Xavier Ricardo,
exactement.
Vous, ça vous inquiétait pour votre santé, justement, l'usage de travailler au milieu des produits chimiques?
Je pense comme tout le monde, hein. D'avoir au moins, là, on a la santé. Il y a plus de boulot, mais... Mais voilà, quoi. Mais je vous remercie, alors.
Merci à vous.
Ok, allez, au revoir.
En tant qu'agriculteur, vous bénéficiez des subventions de la PAC, la politique agricole commune, les fonds européens?
Oui, oui. Vous savez, petite ou moyenne exploitation, sans les aides qui nous permettent de faire les plantations, sans les aides pour pouvoir planter les plantes de couverture, sans les aides pour compenser le coût de production qui est à peu près à 1100 euros la tonne, alors que nous avons un prix de vente à peu près de 700 euros, si nous n'avions pas des aides, aujourd'hui, il n'y aurait pas de bananes en Guadeloupe et en Martinique. Il n'y aurait pas de bananes françaises. Ça n'existerait pas. D'autant plus que c'est une aide européenne. Sans cela, on ne pourrait pas économiquement continuer cette activité.
Je suis Jacques Luisor, responsable développement de nouvelles variétés au sein de l'Institut Technique Tropicale.
Donc vous ne travaillez pas dans des laboratoires, vous travaillez directement dans les champs?
Alors nous, on travaille directement dans les champs avec les producteurs, en conditions réelles, et on teste les nouvelles variétés donc avec les producteurs, avec leurs pratiques. Alors ici, on est chez un producteur qui fait la nouvelle variété de banane qui est résistante naturellement, on va dire, à la circonspire jaune et noire.
Donc le fameux champignon destructeur.
Voilà, qui détruit le feuillage des bananiers. Donc c'est une variété qui a été créée par le CIRAD, donc le Centre international de développement agricole.
Alors là voilà, ça c'est donc voilà. La nouvelle donc, c'est espèce.
C'est la nouvelle variété, voilà. Donc cette variété qu'on teste avec le producteur, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est testée sur le producteur.
Donc finalement, face à ce problème du champignon, plutôt que d'essayer de trouver des produits pour protéger les plantes, vous vous êtes dit on va créer une espèce de plante qui est intrinsèquement résistante au champignon.
C'est un peu l'idée qui a été créée dans le cadre du plan Banane Durable, le premier en 2008 avec le ministère. Donc le CIRAD fait un travail en amont, un travail de recherche en amont, en créant des variétés qui se rapprochent le plus possible de la banane traditionnelle, la Cavendish. En partant de bananes sauvages. Donc c'est une création variétale qui est naturelle, donc ce ne sont pas des OGM, il faut que le public comprenne ça bien, ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés. C'est tout simplement en prenant le pollen, comme je vous montre ici, de bananes sauvages A, on va le passer sur la fleur de bananes sauvages B, et on attend 9 mois pour avoir un nouveau régime. Et c'est dans ce nouveau régime qu'on va récupérer des graines pour mettre après en culture in vitro pour obtenir de nouveaux bananiers. Mais on ne sait pas au départ ce qu'on va obtenir. Donc on fait exactement le même travail que ferait une abeille en pollinisant deux fleurs différentes et en faisant une hybridation naturelle. On part de bananiers sauvages qui sont déjà résistants à la maladie. Il faut savoir qu'au niveau du Cigade, il y a 450 variétés différentes qui viennent du monde entier. Et parmi ces 450 variétés, il y a plus d'une cinquantaine qui sont résistantes naturellement aux cercospores qui sont utilisées pour faire les croisements.
Vous croisez un bananier qui est déjà naturellement résistant, voilà, avec un bananier local, voilà, en espérant que...
Voilà qu'on va obtenir derrière un bananier qui est résistant naturellement, mais avec les caractéristiques de rendement, de productivité proche de la Cavendish.
Mais donc votre objectif à terme, c'est entre guillemets d'équiper tous les producteurs de Martinique et de Guadeloupe avec cette nouvelle super banane?
Dans le cadre de la plateforme, c'est l'objectif. Et on va commencer progressivement à la diffuser aux planteurs. Donc aujourd'hui, ça, c'est une solution alternative pour le développement durable. C'est vrai que c'est un processus de longue haleine, savoir qu'entre la création d'une variété et sa diffusion, ça prend au moins 20 ans. Donc on est dans ce processus-là aujourd'hui, ça fait quand même moi 10 ans que je travaille dessus, avec des équipes, avec mes collaborateurs. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est long, mais on commence à voir un peu le bout du tunnel.
Ah d'accord, il pense qu'il est qualifié lui, hein. Il pense qu'il est bon. Mais moi je suis obligé de passer derrière lui de temps en temps pour vérifier, c'est vraiment bon.
Regardez les abeilles, regardez. Je vais vous faire voir. Notre attention trop, hein. Mais regardez. Vous voyez l'abeille? Il y a plein d'abeilles. Il y en a plein. Regardez là-bas. Vous voyez? Il y en a plein comme ça, vous voyez? Donc on a une flore naturelle qui est revenue. Et on a constaté une explosion du nombre d'abeilles. Il y en a plein. Vous savez que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Donc on va se retrouver dans des situations où nos arbres ne vont pas porter des fruits. On a besoin de nos abeilles. Et au sol même, on a plein de vers de terre, on a beaucoup de choses. On a une très grande biodiversité. Donc on est content parce que nous sommes des agriculteurs avant tout. Nous sommes là pour nourrir les gens. Nous ne sommes pas là pour tuer les gens. Notre objectif, c'est de nourrir et non pas de détruire. Voilà.
Hey, allez, touc, 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 touc. Hey, à midi. Midi, on peut dire. On va passer. Fais-nous tout, tirer ça, y'a.
Des producteurs de bananes s'est engagé dans un label de la banane française, dont vous faites partie.
Voilà, c'est ça. Effectivement, ici, c'est une exploitation qui fait ce qu'on appelle la banane française. C'est un cahier de charges assez pointu. Il faut respecter des grades, il faut respecter une qualité. Notre qualité réside dans le tri des fruits, mais aussi tout le travail que nous faisons au champ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, à savoir pas d'utilisation de produits chimiques, etc., etc. Donc, en fait, c'est une qualité permettant aux consommateurs d'avoir un produit qui soit propre.
Face à quel constat, en fait, vous avez décidé de mettre en place un label banane française?
Nous avons décidé de mettre en place, effectivement, le concept banane française. C'était pour nous démarquer de nos concurrents. Vous savez, une banane, quand vous arrivez dans un supermarché, vous voyez des bananes, toutes les bananes se ressemblent. Et donc, on ne pouvait pas dire que notre banane, c'est une banane qui vient d'Afrique ou une banane qui vient de Costa Rica. Une banane qui vient d'Afrique, ce n'est pas les mêmes coûts de production. À Costa Rica, ce n'est pas les mêmes coûts de production. Ce n'est pas les mêmes respects sur le plan environnemental de l'utilisation de produits, etc., etc. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de nous démarquer et de dire que voilà, nous produisons une banane française. Il faut que le consommateur, il arrive à le reconnaître.
À l'identifier. Mais du coup, c'est une banane qui est plus chère aussi que vos concurrents.
Exactement, elle est beaucoup plus chère que notre concurrent, cette banane-là. Parce qu'il faut savoir qu'une journée de main-d'œuvre chez nous, c'est ce qu'on paye un mois de main-d'œuvre en Amérique latine ou en Afrique. Je crois que de plus en plus, le consommateur, il a envie de savoir pourquoi il mange quelque chose. Vous savez, quand on entend les problèmes de santé que les gens ont pour XX raisons, les gens ont envie de plus en plus de savoir pourquoi ils mangent quelque chose. Et je pense qu'ils sont prêts à mettre la main à la poche pour pouvoir payer un petit peu plus.
Mais ça n'est pas possible, c'est vous qui dites moi ça, c'est vous qui faites moi ça, allons pas aimer moi.
Vous
reportage de Alice Milo réalisé par François Porcheron. Depuis le mois de mai, l'UGPBAN s'est également engagé dans un nouveau label, la banane française équitable, qui a pour objectif de mieux rémunérer les petits producteurs de bananes qui produisent moins de 500 tonnes par an, ce qui correspond aux deux tiers des adhérents de cette union. Alors la banane sera vendue 5 centimes plus cher sur les étals, un coup de pouce financier pour compenser l'impossibilité pour ces petits producteurs de compresser les coûts par la quantité et leur assurer ainsi un revenu fixe à l'année. Alistair Smith, je rappelle que vous êtes le fondateur de Banana Link et l'auteur de la saga de la banane aux éditions Charles-Léopold Meyer. Nous sommes ensemble sur une terrasse à Lyon, dans le sud de la France. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Mais c'est ce qu'on a vu il y a 3 ans à la Guadeloupe, précisément. On avait accompagné une petite délégation de syndicats des travailleurs de la banane, donc des dirigeants syndicalistes de 3 pays d'Amérique latine en Guadeloupe. Ils étaient très surpris, impressionnés, on va dire, côté système de production, côté ambiental en particulier, de voir que c'est possible quand même à échelle commerciale de produire de la banane avec très très peu d'intrants chimiques. Là où avant il y avait quand même beaucoup, tout comme chez eux en Amérique latine, il y avait beaucoup de produits chimiques avec tous les dégâts sur la santé humaine que eux ils connaissent.
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, la quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés par ce pesticide qu'on appelle le chlordécone, qui a été utilisé de 1972 à 1993 dans les bananeraies, alors qu'il avait été quand même interdit aux États-Unis 10 ans plus tôt. Les eaux, les sols, le bétail, les végétaux sont aussi contaminés. Alors la cartographie des zones impactées a enfin été publiée en avril dernier et un grand colloque devrait avoir lieu à l'automne. Enfin, la tension est très vive sur le sujet actuellement entre la population et les autorités françaises.
Mais disons que le scandale du chlordécone, parce que c'est ça, et c'est ça qui a provoqué la prise de conscience de l'industrie et le changement qu'on entend dans la pratique dans les champs, c'est grâce à cette prise de conscience provoquée par la révélation de ce scandale. Ma réaction à ça, c'est malheureusement, on peut multiplier par 20, sinon 50, les scandales qu'on découvrirait s'il y avait les ressources de recherche pour faire le lien entre les produits utilisés dans toutes les bananeraies à grande échelle en Amérique latine. On aurait 50 fois plus de scandales.
Parce qu'en fait, ce scandale du chlordécone, il est identifié en Guadeloupe et en Martinique parce qu'on a fait des recherches. Mais il y a plein de pays où le scandale existe et où les recherches n'ont pas été faites.
Et pas que les insecticides, mais on a toute une panoplie de produits chimiques utilisés dans la production industrielle de la banane. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens de prouver le lien entre tous ces produits appliqués par des êtres humains. Par des êtres humains souvent très mal payés, avec une répression de leurs droits très souvent, une histoire violente du continent latino-américain. Hein, mais on reste optimiste, on va dire qu'on espère que cette prise de conscience ne reste pas confinée aux Antilles, mais que ça va plus loin. Et je pense qu'actuellement, on peut voir quelques signaux que les grandes entreprises de la production bananière, y compris un acteur important français, commencent à se dire que ce système de monoculture, d'une seule variété, est extrêmement risqué.
Pourquoi ?
Il y a une nouvelle souche de maladie, ça s'appelait la maladie du Panama. On n'a plus le droit de l'appeler ça la maladie du Panama parce que le Panama c'est plein, c'est un peu normal. C'est un champignon qui vit dans le sol, qui est au Taïwan initialement, après aux Philippines, en Chine, ça a sauté en Australie, ça a sauté au Mozambique, ça a sauté en Jordanie, au Pakistan. Et qui dit que ça ne va pas sauter ou être transporté sur les chaussures des techniciens aux Amériques? Le jour où ça arrive aux Amériques, ça va détruire la banane Cavendish, qui représente 99,9% du commerce international de la banane. C'est une réelle possibilité que cette nouvelle souche de maladie, qu'on appelle la race tropicale 4, va pas arriver aux Amériques et forcer la recherche d'autres systèmes de production, peut-être moins dépendants d'une seule variété, parce qu'il y a quand même 1100 variétés de bananes et bananes plantains dans le monde. Ça, on le sait, il y a cette diversité génétique est dans les mains des petits producteurs qui produisent pour leur marché local, pour leur propre consommation de leur foyer. Il y a quelques petits producteurs qui restent en commerce international, qui ont ces connaissances, qui commencent à développer des systèmes de production diversifiés. Je pense qu'il y a besoin d'une transformation. Il y a des grands acteurs qui, depuis quelques mois, commencent à s'en rendre compte et même d'annoncer publiquement que sur le marché international, ils vont vers le bioéquitable exclusivement.
Qui ça, par exemple ?
Ben, je peux citer l'exemple de la compagnie fruitière de Marseille, hein, la multinationale fruitière française, qui porte un message de plus en plus fort et qu'ils ont porté lors de la troisième conférence mondiale du forum international qu'on a monté avec tous nos partenaires il y a une dizaine d'années. Lors de la conférence au mois de novembre 2017, ils ont clairement dit « Nous, on va vers une banane exclusivement bioéquitable et un bon pourcentage de notre production va être pour le marché régional. » Parce que des grandes villes comme Kinshasa ou Lagos, ils auront d'ici très peu de temps une vingtaine, 25 millions d'habitants. Eux aussi, ils ont besoin de manger, ils ont le droit de manger des produits sains. Et nous, on va vers une partie de notre production qui assure ce marché régional. Mais pour faire ça, il faut une transformation du modèle de production. C'est le message qu'ils ont porté à cette conférence, ce qui a été entendu par d'autres. Et d'autres messages du CIRAD, par exemple, qui...
Centre international de recherche agronomique pour le développement.
Qui donc des amis basés à Montpellier qui disent qu'il n'y a aucune raison de continuer d'utiliser les produits les plus toxiques parce qu'on a la technologie, on sait comment produire des bananes sans nématicides et insecticides.
Oui, mais sauf que dans le reportage, on entendait quand même un producteur dire qu'il dépendait étroitement des aides de la politique agricole commune, hein, disant le coût de production c'est 1100 euros la tonne et le prix de vente c'est 700 euros la tonne. Il disait carrément sans ces aides, on ne pourrait pas économiquement continuer cette activité.
C'est clair. Et la banane antillaise et canarienne est subventionnée par l'Europe avec des subventions additionnelles nationales. Et sans ces aides-là, elle n'existerait pas dans les marchés internationaux. Ça, c'est clair. Mais moi, je ne dirais pas que c'est mauvais. Je dirais que c'est plutôt un problème de concurrence déloyale. Si on a des bas salaires, la répression des droits syndicaux qui empêche la négociation collective dans beaucoup de pays d'Amérique latine, on a des salaires extrêmement bas dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la République dominicaine, etc. On dépend de la main-d'œuvre des travailleurs migrants, haïtiens, dominicains, etc. Centre-américain au Belize, il y a plein d'exemples. Hein. Si on continue ce modèle où les coûts sociaux et environnementaux sont cachés, c'est-à-dire on ne sont pas comptés dans le prix, qui peuvent valoir jusqu'au double du prix d'un carton de banane aujourd'hui, hein, ces coûts cachés, si on les rajoute. Hein. Ouais, et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, on essaie de pousser vers les améliorations sociales et environnementales. Mais après, il vient le problème du prix.
Justement, dans le reportage, il y a un producteur qui dit « Je pense que désormais, le consommateur est prêt à mettre la main à la poche, c'est-à-dire à payer un petit peu plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité. » C'est une tendance que l'on observe. Est-ce que c'est vrai aussi pour un produit aussi mondialisé que la banane ?
C'est une tendance forte, et puisque la banane est devenue emblématique de pas mal de problèmes dans beaucoup de pays, de plus en plus en France, je dirais aussi, parce que le marché bioéquitable est en pleine croissance en France. Et ça, c'est sûr, on compte sur ça. Mais entre les consommateurs et les producteurs, il y a les distributeurs. Donc, beaucoup dépend de la bonne volonté politique, la capacité de vision alternative de la part des grands distributeurs de soutenir. Parce que là, il y a une concentration des bénéfices dans les mains des grands distributeurs. C'est pas un secret, hein. Mais vu cette responsabilité économique et la répartition de la valeur actuelle, ils ont quand même une responsabilité très forte d'encourager, d'aller dans ce sens-là. On a un début, on a quelques distributeurs qui commencent à se rendre compte qu'il faut accompagner une transformation. Et c'est même en urgence. Ils disent que c'est une urgence, c'est pas un truc qu'on va faire tranquillement sur 50 ans. Hein. C'est là, ils y vont et ils font quasiment appel à tout le monde de les suivre. Donc nous, en tant que petite organisation de la société civile qui essaie d'encourager cette transformation, ça nous encourage qu'il y a des acteurs économiques importants qui se rendent compte qu'on ne peut pas rester sur un système de monoculture industrielle avec tous ces coûts cachés, tous ces dégâts à la santé humaine, à la santé de l'environnement, les ressources naturelles que représente la banane conventionnelle.
Alors justement, est-ce que la commercialisation de la banane est appelée, on pourrait dire carrément, à disparaître au XXIe siècle si on tient compte de son impact environnemental et social ?
À changer ou disparaître ? Moi, je dirais que c'est pas gagné que les changements vont être possibles à temps pour la maladie, la nouvelle souche de maladie qui pourrait arriver aux Amériques et faire d'énormes dégâts. Et c'est loin d'être gagné que les victimes, en termes de santé humaine, vont être indemnisées pour tous les dégâts qu'ils ont souffert pendant des décennies. Hein. Je pense que ça va être très très compliqué, mais si on regarde vers l'avenir, c'est essentiel cette transformation de système de production vers des systèmes agroécologiques qui restent à inventer. Hein. Je ne dis pas que ces systèmes sont là sur le rayon et à prendre comme ça. C'est complexe. C'est introduire plus de complexité. Et c'est pas que pour la banane. Hein. La banane est emblématique, mais c'est pour tous les produits agro-industriels. Il faut aller dans ce sens-là. Et c'est plus intensif en termes de connaissances. Mais je pense que si les gens sont accompagnés par les consommateurs et que ceux qui interprètent ce que veulent, entre guillemets, les consommateurs, c'est-à-dire les distributeurs, les grands distributeurs notamment, s'ils sont prêts à jouer le jeu, à mettre de l'argent, c'est pas que on ne doit pas dépendre que de la recherche publique là. Il faut que le privé mette de l'argent parce qu'ils ont profité de ce système pendant des décennies. Donc je pense qu'ils ont une responsabilité d'accompagner, de financer, cofinancer ce mouvement sur 5, 10, 20 ans vers une banane agroécologique commerciale. Là, c'est la possibilité de changement que je vois. Sinon, peut-être que la banane dessert est condamnée à disparaître.
Merci Alistair Smith.
Merci.
Merci d'être venu dans Ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, La saga de la banane. C'est publié chez Charles Léopold Meyer. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.